Bueno, el EZLN antes del 94, no tendríamos que decir 10 años antes del 94, pues fue una guerrilla normal o una guerrilla tradicional clásica, como lo hubo durante mucho tiempo en América Latina, después de la Revolución Cubana en específico. Pues como todas las guerrillas que se inspiraron en la Revolución Cubana o en la teoría del foquismo del Che Guevara, era un grupo de vanguardia revolucionaria. Pues en eso no cambia nada, el EZLN era una vanguardia revolucionaria que se internó en la selva y que eran levantar un movimiento insurgente en la selva de Chiapas por las condiciones de pobreza. Pero la sorpresa es que no convirtieron a los indígenas a esta guerrilla, sino que al paso de los años esta guerrilla tradicional se convirtió en otra cosa porque encontró arraigo en las comunidades indígenas. Entonces este grupo de mestizos o blancos pues cambió su manera de pensar de la guerrilla tradicional y se adaptó más a la forma de organización de los indígenas.
Bon, le ZLM, l'armée, ça passait de Libération nationale avant 1994. Il faudrait dire 10 ans avant 1994, en fait. C'est une guérilla de type classique, comme toutes les guérillas qu'il y a eu en Amérique latine, qui ont suivi le modèle ou l'exemple cubain. Exemple cubain, là, qui était un peu la théorie du foco, comme il a été dit en espagnol, et qu'on pourrait peut-être traduire par la théorie des feux de résistance qui était développée par le Che Guevara à l'époque. Alors, qui se base sur l'idée d'une avant-garde révolutionnaire. Alors, le ZLN, à ce moment-là, est arrivé là, avec cette idée-là de l'avant-garde révolutionnaire, c'est-à-dire il voulait lever un mouvement armé. Dans toute la région du Chiapas, mais dans la jungle où il y avait pour toutes les situations de pauvreté extrême puis d'abus qui se déroulaient. La surprise qu'il y a eu à ce moment-là, c'est le contact qu'il y a eu avec les Autochtones qui ont emmené leur vision à cette guérilla-là. Cette guérilla-là était métisse, étaient formés là, par des gens métis. Donc, ils ont changé leur façon de voir au contact des Autochtones pour s'adapter, puis développer une autre stratégie, puis une autre façon de faire qui était beaucoup plus axée sur le mode de pensée des Autochtones.
Y bueno, también tendríamos que mencionar que durante mucho tiempo, bueno, en la Edad Moderna, en Chiapas, hubo una organización social abierta muy, muy fuerte de indígenas. Pues la mayoría de los comandantes, aunque no los conocemos, pues podemos decir que fueron parte de los dirigentes campesinos o indígenas que hicieron grandes manifestaciones durante los años 80, antes de que naciera el EZLN. Varios de los mestizos pues también participaron en la guerrilla en Centroamérica. Pues como se sabe, habrá una movilidad sobre todo a nivel latinoamericano, pero también internacional, de brigadas internacionales que iban a los movimientos de liberación, sobre todo en los movimientos de liberación que se dieron en Nicaragua y en El Salvador.
Il faudrait également mentionner là, dans toute cette ère moderne-là, que il y a toujours eu là, une organisation sociale forte autochtone qui a été là tout au courant des années. Puis on pourrait dire que probablement la majorité des commandants de l'EZLN, malgré qu'on ne les connaisse pas, mais on peut supposer que la majorité, c'était justement de ces dirigeants-là autochtones, des leaders autochtones, avant que naisse l'EZLN, là, avant, durant la période des années 80. Et puis, il y a aussi toute la question de la participation dans les autres luttes, particulièrement d'Amérique centrale, parce qu'il y avait tout les déplacements, les mouvements de personnes ont été très forts durant toute cette époque-là, tant d'un point de vue international que aussi localement. Donc, des gens qui sont allés directement appuyer puis soutenir les mouvements de guérilla, en particulier celui du Nicaragua puis du Salvador.
Y bueno, si nos vamos todavía más atrás de 1994, encontramos también en Chiapas que siempre ha habido rebeliones indígenas desde la Guerra de las Castas y pues también movimientos indígenas de liberación que muy diferentes al EZLN. Cabe mencionar también la opresión que vivían los indígenas en las ciudades coloniales como San Cristóbal de las Casas, donde pues los indígenas eran tratados casi como animales o como seres inferiores, como hablan los libros del siglo XVI. Los indígenas tenían que caminar por abajo de las banquetas, por ejemplo, o hacer reverencia a los mestizos, cosas de sumisión y de humillación, pues que no se pueden soportar por largos periodos de tiempo.
On peut même aller là encore plus avant de 1984 là, on peut si on va encore plus loin dans le temps, on peut rencontrer d'autres mouvements là qu'on peut nommer de rébellion autochtone, par exemple la révolte des castes. Puis d'autres mouvements qu'on peut dire que c'est des mouvements de libération autochtone, parce que les Autochtones du Chiapas vivaient dans une situation extrême, situation extrême d'abus et de soumission. Si on prend par exemple à San Cristobal de Las Casas, qui est comme une ville du Chiapas, une ville coloniale, là, les Autochtones étaient traités pratiquement comme des sous-humains, comme des animaux. Il y avait, bon, cette question-là qui devait marcher, là, pencher, qui devait faire des courbettes, là, des révérences pratiquement aux métis dans les rues, donc qui vivaient dans une situation de domination extrême. Une situation extrême là, que personne ne peut supporter là, durant autant d'années.
Pues bueno, los indígenas habían soportado esta situación de humillación pues durante más de 500 años, ¿no? Porque hay que mencionar eso, que esa raíz o las causas de esta rebelión, como no es algo nuevo, si bien se agudizan con el neoliberalismo, por eso es que se levanta el EZLN cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, como sabían perfectamente las consecuencias a venir. Sí, son 500 años de opresión, de desprecio de los pueblos originarios de México y de América. En México ha habido muchas rebeliones, pero podemos hablar de las dos principales rebeliones, o que están más marcadas en la historia, de la independencia y la revolución. Los dos fueron creados por indígenas, pero nunca se le dio el lugar a los indígenas. Nunca hubo realmente como justicia por los indígenas. La independencia, pues, fue hecha por los indígenas, pero quien tomó el poder fueron los criollos, los españoles nacidos aquí, que siguieron durante el poder y podemos decir que siguen todavía en el poder. Después vino la Revolución Mexicana, que fue hecha también por indígenas, pero que tampoco se hizo justicia a los indígenas, solamente en algunas regiones, sobre todo las que fueron controladas por los zapatistas, por la primera generación de zapatistas, de Emiliano Zapata, del Ejército Liberador del Sur. Podemos hablar que hubo un poco repartición de tierras, pero en el sur, como no llegó la revolución y siguió habiendo esta sociedad semifeudal, en la que había una mucha semejanza a lo que es la esclavitud. Pues allá no llegó la revolución, como en muchos lugares de México.
Alors, les Autochtones ont toujours supporté cette situation de domination, ont supporté cette situation de domination pendant plus de 500 ans, parce qu'il faut dire là que il est question de ça, du colonialisme. On mentionne que la cause de la rébellion des apatistes, du soulèvement, c'est le néolibéralisme actuel, parce que bon, il prévoyait puis il pouvait connaître d'avance les conséquences qui étaient pour venir avec le néolibéralisme. Mais dans les faits réels, on parle de la situation des 500 ans de domination des peuples originaires c'est du Mexique puis des Amériques en fait, puis de d'autres peuples dans le monde là, puis du colonialisme. Et puis dans les faits, ben les mouvements autochtones ont toujours été présents au Mexique. Il y a deux exemples qui ressortent là. C'est celui de l'indépendance et puis de la révolution. Les deux soulèvements qui sont des moments forts au Mexique ont été créés par les Autochtones, mais ça n'a jamais été reconnu comme tel. Par exemple, l'indépendance, elle a été faite par les Autochtones et puis après, on associe le mouvement aux créoles qui ont pris le pouvoir suite à l'indépendance. Et tandis que au moment de la révolution mexicaine, ben la justice elle a pas été faite encore là aux Autochtones qui ont créé le mouvement, qui ont créé le soulèvement. Malgré le fait que bon, par exemple, l'armée de libération du Sud, qui était avec bon, qui était l'armée de Emiliano Zapata, là, elle a emmené beaucoup de reconnaissance des origines de ce mouvement-là. Mais dans le Sud, le mouvement s'est pas rendu jusque-là, en fait, pour emmener la répartition des terres. Il n'y a pas eu de répartition des terres. Donc, dans tout le sud du Mexique, il se maintenait la situation de soumission et puis de domination, de travail servile, en fait, puis la situation dans laquelle vivaient les Autochtones jusqu'à très récemment, ben c'était une situation qui avait des similitudes avec l'esclavitude.
Bueno, en este contexto de discriminación y opresión contra los indígenas y sus organizaciones sociales habían intentado de diferentes razones, ¿no? Pues las tradicionales, marchas, plantones, en el aniversario de los 500 años del descubrimiento de América, pues tiraron todos los monumentos de los supuestos conquistadores, ¿no? De los invasores. Entonces, antes del 94, su inicio real es en el 84, según ellos. Durante 10 años, pues estuvieron en silencio, caminando poco a poco. Pues al principio, según describen ellos, algunos indígenas se unieron a ellos, pero no muchos. Fue cuando, con el transcurrir de los años y cuando este grupo de vanguardia revolucionaria dejó esas ideas de la vanguardia revolucionaria y se hicieron más indígenas, podemos decir, aunque fueran mestizos, la comunidad lo sintió como parte de ellos. Entonces, pues el proceso fue no, primero de persona por persona. Las reuniones se hacían por familias, según ellos describen. Pues había una familia que se hacía zapatista y esa familia llamaba a otra. Entonces se hacían reuniones clandestinas por pueblos. Hasta que llegó un momento, después de muchos años, llegó un momento en que el movimiento se hizo tan grande que poblaciones completas hicieron parte de este movimiento, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces hubo un momento en que hubo un desborde, un largo camino, como muy difícil, en el que varios de esos guerrilleros murieron en la selva, en esta batalla contra la naturaleza, que es muy extrema en la selva. Y esta asimilación, o este convertirse, ¿no? De cambiar sus ideas de vanguardia revolucionaria a como a convertirse pues a las necesidades que había ahí, a la experiencia, también a la rica experiencia de lucha que también tenían los indígenas.
Donc, dans ce contexte de domination et de soumission des Autochtones, les mouvements autochtones avaient tenté toutes sortes de tactiques là, ou de mouvements traditionnels, là, quand on parle de démarches, faire des campements, des rassemblements, etc. Faut souligner, par exemple, que lors du 500e anniversaire de la conquête, les grandes marches qui étaient dirigées par les Autochtones ont tiré. On fait tomber là, toutes les statues, les monuments qui représentaient les supposés là, conquistadors, si on peut dire. Donc, avant 1994, selon eux, l'origine réelle, là, c'est 1984, qui est le moment où cette avant-garde révolutionnaire, si on peut l'appeler comme ça, est arrivée dans les communautés, dans la jungle. Puis, ils sont restés durant un bon moment, tout ce temps-là, en fait, en silence. Selon eux encore, au début, il y a peu d'Autochtones qui se sont joints là, spontanément ou rapidement à eux. C'était assez limité le nombre. Par après, quand le groupe a cessé d'agir ou de se percevoir comme l'avant-garde, mais ont commencé à agir plus, de plus en plus comme Autochtones eux-mêmes, qui sont devenus davantage membres de la communauté, c'est là que les relations se sont changées graduellement. Alors, on faisait des réunions par famille. Les familles se disaient zapatistes peu à peu, et puis là, invitaient une autre famille à se joindre. Puis les réunions se faisaient comme ça peu à peu. Peu à peu, le mouvement a donc s'est agrandi. Il y a davantage de familles qui se sont joints. Puis c'est devenu finalement des communautés entières qui se sont joints, qui se sont identifiées à le zapatisme, puis qui se sont nommées eux autres mêmes zapatistes. Et puis à un moment donné, ça a débordé, si on peut dire. Tout ce mouvement-là est devenu extrêmement fort. Et puis ça a dépassé le cadre de juste ce groupe-là d'avant-garde qui avait quitté peut-être quitté leur endroit pour venir s'établir dans la jungle puis contribuer à créer le mouvement. Au travers de ces années-là, il va y avoir beaucoup de changements là, dans cette avant-garde-là. C'est-à-dire que dans la jungle, ils ont eu à résister au climat qui est très rude de la jungle. Il y en a qui sont morts, par exemple. Donc, de survivre toutes ces années-là dans la jungle, ça a été comme un défi, mais il y a aussi eu tout le passage où ces gens-là qui avaient ils se percevaient d'une certaine façon que c'était leur analyse de la guérilla traditionnelle, donc c'est-à-dire de l'avant-garde révolutionnaire, ils se sont convertis là, si on peut dire comme ça, tout à la richesse de lutte des Autochtones avec qui ils étaient, puis que peu à peu ils apprenaient à connaître puis à modifier leur perception, ce qui les faisait graduellement devenir eux-mêmes membres des communautés.
Y por último, sobre las condiciones que originaron esto, ya hemos mencionado otro, pues también tenemos que mencionar los índices de pobreza y de analfabetismo en Chiapas, que eran los más altos en México y siguen siendo todavía los más altos. Son las comunidades más pobres, pese a la riqueza que existe natural, Y también, por mencionar, casi el 50% de la electricidad que hay en México se produce en Chiapas por el agua. Y bueno, llega el 1 de enero de 1994 y los indígenas exigen a la parte armada que tiene que haber una rebelión porque ya es insoportable. Eligen el 1 de enero, bueno, porque es el día del Tratado de Libre Comercio, pero y porque ya un presidente, Carlos Salinas de Gortari, había hecho varias modificaciones a la Constitución y se veía venir lo que cambiaron el artículo referente a la tenencia de la tierra, a la tierra comunal. Entonces la tierra se privatizaba y otra vez como varios de los pocos logros que se lograron en la Revolución Mexicana por Emiliano Zapata, otra vez se volvió como atrás de la revolución con los presidentes neoliberales, más con Carlos Salinas de Gortari. Entonces es eso, es la comunidad enteras que pide a la parte armada que tienen que levantarse en armas. Y entonces el 1 de enero toman las principales ciudades en Chiapas. Ese día muere su principal comandante. Antes del 1 de enero no era el subcomandante Marcos, había otro, el comandante, que mataron ese día. Y también mataron a la que era la comandante más la mujer comandante que tenía más alto rango, también murió ese día.
Fait que, dans le fond, pour terminer, on peut parler un petit peu des conditions qui ont généré ça, bien que j'en ai déjà parlé. C'est toutes les statistiques qui concernent le Chiapas mentionnent que c'est l'endroit où il y avait le plus haut taux d'analphabétisme et de pauvreté, et ça l'est encore aujourd'hui, là. Il y a des raisons pour ça. C'est l'endroit où il y a le plus... où il y a le plus grand taux de richesse naturelle. Il faut dire que 50% de l'électricité qu'il y a au Mexique est produit de Chiapas, là, par des sources hydroélectriques. Donc voilà. Alors, peu avant janvier 1994, les Autochtones exigent de la partie armée du mouvement là qu'il y ait un soulèvement parce que là, ils n'en peuvent plus là et ça devient un stade qui est limite. Il y avait vu venir là, les changements qui étaient en train de se dérouler avec la signature de l'accord de libre-échange nord-américain, notamment changements au sein même de la Constitution en ce qui concerne plusieurs changements au sein de la Constitution, dont un qui concerne là, qui est en référence à la terre, qui avait été justement un des acquis de la Révolution mexicaine et de Zapata. Donc là, il y a cet accord-là qui est signé puis qui a été négocié par Carlos Salinas de Gortari, président à l'époque. Et puis, devant tout ce qui est en train de se dérouler, les membres de la communauté demandent à la section armée de se soulever. Alors, ces événements-là vont se dérouler le 1er janvier 1994 et à ce moment-là, il va y avoir beaucoup de pertes dans le mouvement. Notamment, il y a le commandant. Il y a un commandant. Il y avait un autre commandant que le sous-commandant Marcos à l'époque va être tué. Et puis une commandante qui était la femme qui avait le plus haut rang dans l'armée zapatiste va être tuée ce jour-là également.
Pues nada más sobre lo de mil, el 1 de enero de 1994. Pues los zapatistas, como cualquier movimiento realmente liberador o revolucionario libertador, al mismo tiempo que tomaron las armas, tomaron a su cargo los medios de producción. Ellos son campesinos, son indígenas, entonces ocuparon tierras que les pertenecieran a ellos desde hace cientos de años, donde durante cientos de años ellos trabajaron como esclavos. Esas tierras se apropiaron de ellas y pues ahora los indígenas, los zapatistas están trabajando estas tierras que ahora son insuficientes, y lo que se ve venir es que tiene que haber otra vez otra ocupación de tierras. Entonces, eso es lo que se ve para el futuro.
Alors, juste pour ajouter, à propos de 1994, comme dans tous les mouvements révolutionnaires ou libérateurs, le ZLN là, a repris le contrôle des moyens de production, c'est-à-dire pour le mouvement, comme ce sont des paysans, ils ont occupé les terres. Ce sont des terres qu'ils avaient, où ils ont été contraints de travailler durant 500 années. Comme quasi-esclaves, les ont donc reprises, puis se sont mises à les travailler. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de réappropriation des terres. Et puis, ce qui est en train de se dérouler actuellement, c'est que c'est les terres qui ont été saisies en 94 et puis qui sont en train de travailler, c'est qu'il en manque des terres. Alors, on peut déjà un peu prévoir qu'est-ce qui peut se planifier dans le futur, là, c'est-à-dire d'autres récupérations de terres.
Bueno, la particularidad es del movimiento zapatista o de la guerrilla zapatista. Como ellos mismos lo dicen, es la primera guerrilla totalmente indígena. Ha habido otros movimientos, rebeliones indígenas a lo largo de esos 500 años de genocidio, de colonialismo. Pero es la primera guerrilla auténticamente en América. Ha habido otros movimientos que estaban integrados por indígenas, como la guerrilla guatemalteca, donde la mayoría eran indígenas, pero la dirigencia la tenían los mestizos, y no era el principio no era indígena. Otra de las particularidades es que esta es una guerrilla, pero no es una guerrilla que busca el poder, como la guerrilla tradicional. La guerrilla tradicional busca tomar el poder. Esta guerrilla, pues, no busca tomar el poder, busca el autogobierno, el autogobernarse, el tener derecho a sus tradiciones comunitarias, a las milenarias tradiciones comunitarias que existen, como el trabajo en común, el modo de decidir, su forma de gobierno, su forma de justicia, su educación. Todo eso es lo que las hacen particulares, que en sus zonas que tienen controladas ellos, pues no intervienen, no hay ayuda del gobierno. Sus escuelas son autónomas y los contenidos que hay en ellas son en base a las necesidades que tiene la comunidad, y quitando todas las mentiras que existen de la historia y de la escuela tradicional, pues que más que nada busca que te adaptes al modelo occidentalista. Lo mismo podemos hablar de su sistema de salud.
Les particularités de la guérilla zapatiste, comme d'abord, là, comme eux-mêmes le disent, c'est la première guérilla qui est entièrement autochtone, là, premier mouvement de ce genre qui est entièrement autochtone. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'autres mouvements où ont participé les autochtones au cours de toutes ces années-là de résistance, là, ces 500 années-là. Il y a eu les Autochtones ont participé activement dans différents mouvements, mais c'est le premier là qui est entièrement autochtone. Tu sais, par exemple au Guatemala, dans le mouvement il y avait beaucoup d'Autochtones qui participaient, mais la dirigeance est toujours restée métisse. Puis donc c'est ça là, c'est une des particularités. Un autre point là, cette guérilla ne cherchait pas à prendre le pouvoir. C'est pas ça qui est recherché comme but. C'est-à-dire que ils recherchent le droit à s'auto-gouverner, à former leur propre façon de se gouverner par Par exemple, en gardant des traditions, des formes traditionnelles de fonctionnement, les façons de travailler en commun, les façons de prendre des décisions en commun également. Puis tout ce qui a trait au système là, de santé, d'éducation, de justice, etc. Par exemple, dans leur système éducatif, ben, ils ont d'abord créé leur propre système où ils ont, dans un premier temps, là, enlevé tous les mensonges des manuels puis des récits historiques faits par les mauvais gouvernements. Puis, il y a toute cette idée-là qu'ils vont se réapproprier leur histoire et puis la transmettre aux enfants. On pourrait dire la même chose des systèmes de santé, là. C'est cette idée-là de se réapproprier leur propre forme de se soigner, mais c'est valide dans tous les aspects de leur lutte, là.
Otra de las particulares de este movimiento es que también ellos, sin proponérselo, están creando también como una especie, un método de liberación, así como la Revolución Rusa y Lenin crearon un modelo para de revolución que algunos siguen continuando, y así como Mao con la Revolución China hizo su modelo. O la Revolución Cubana también fue un modelo importante. Y es un modelo importante en un principio por los zapatistas. Pienso que en todos los movimientos de liberación en América Latina, ellos comienzan su propio modelo sin proponérselo. Es decir, crear un movimiento desde las bases, sin que haya una vanguardia revolucionaria. Es la misma comunidad, de acuerdo a sus tiempos, no a los tiempos del gobierno, que decide cuándo avanzar y cuándo no avanzar. Y bueno, ahorita continuamos.
Une autre particularité là du mouvement, c'est quelque chose qui s'est dégagé là sans que même l'ait proposé, c'est qu'ils seraient pas mal en train de créer un modèle de libération, tout comme Lénine l'a fait durant t'sais, après la Révolution russe, ou comme Mao en Chine, ou alors même Guevara à Cuba. Eux autres aussi sont en train de proposer une façon là de créer un mouvement. Leur idée finalement, c'est de créer un réel mouvement de base populaire sans avant-garde. Et puis ils agissent avec leur propre agenda, c'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes quand c'est le moment d'avancer ou d'agir ou quand c'est le moment d'attendre.
Y bueno, parte de estas particularidades podemos hablar de los ejemplos que nos han dado en cuanto a ellos habían aprendido, bueno, mucho de los movimientos de la liberación en América Latina, sobre todo del Salvador y de Nicaragua y de los acuerdos de paz que hubo dentro del movimiento guerrillero. Sobre todo en El Salvador, entre el gobierno y la guerrilla, que después fueron traicionados. Los zapatistas eran conscientes de que no puedes confiar en el enemigo histórico, que un diálogo con el gobierno si no estás en una correlación de fuerzas fuerte, pues es un diálogo que no vale la pena, es una sumisión. Sin embargo, los zapatistas aceptan un diálogo con el gobierno. Y ellos lo aceptan no porque confiaran en el gobierno, sino por ganar tiempo y porque también al mismo tiempo estaban estableciendo un diálogo con lo que ya ellos llaman la sociedad civil, con la población. Ellos hacen un diálogo con el gobierno y llegan a lo que los acuerdos de San Andrés, los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena. El gobierno acepta estos acuerdos. Las dos partes aceptan estos acuerdos, pero el gobierno no cumple estos acuerdos y los zapatistas lo sabían.
Alors, une autre Une autre partie là, de cette particularité, c'est que ils avaient beaucoup appris des mouvements de libération, surtout là, par exemple du Nicaragua et du Salvador, puis des accords qu'il y avait eu avec les gouvernements et puis qui avaient mené après ça à des qui n'avaient pas été respectés par le gouvernement, que le gouvernement finalement avait trahi le mouvement, surtout là du Salvador. Donc les apatistes avaient clairement conscience qu'ils ne pouvaient pas avoir confiance avec l'ennemi historique, que l'État n'allait pas comme leur accorder certains droits. Cependant, les apatistes acceptent le dialogue avec le gouvernement. Ils l'ont fait pour deux aspects, là, c'est-à-dire un pour pouvoir garder, là, pour pouvoir se donner du temps. Ça leur permettait là, de gagner du temps et aussi parce qu'ils étaient en train étaient dans un processus de dialogue avec la société civile. Fait que ces événements-là, ça mène aux accords de San Andrés, la loi sur la culture autochtone. Et puis, le gouvernement, évidemment, ne va pas respecter les accords de San Andrés, mais ça, les apatistes le savaient d'entrée de jeu.
Entonces estamos en el momento de la traición, pero no sé si le debemos de llamar traición. Traición es cuando no te esperas una reacción del otro, pero si ya sabes la reacción del otro de antemano, pues no sé cómo definirlo. Tal vez porque no existe otra palabra, tenemos que llamarlo traición. Pero bueno, los zapatistas, bueno, dada esta coyuntura histórica, marchan a la Ciudad de México, entonces como pff, realmente todo el país se desborda, millones de gente ven a los zapatistas o se acercan a los zapatistas hasta llegar al Congreso y pues denunciar la complicidad de todos los partidos políticos. También parte de esta estrategia de los zapatistas es tomar un camino que para tomar una toma de posición respecto a los partidos políticos, ¿no? Antes que esto no estaba muy clara. Había muchos participantes de los partidos políticos que se dicen de izquierda, pero que no son de izquierda, que participaban en el movimiento zapatista. Entonces, lo que hacen los zapatistas es desenmascarar a, pues que también los partidos políticos son cómplices del sistema. Pues se llaman de centro, de izquierda o de derecho, pues son parte del mismo sistema y participan en las decisiones. También el partido llamado de izquierda participa en esta tradición. También ellos votaron contra los acuerdos de San Andrés. Entonces, pues es uno de los logros del zapatismo en ese momento, descubrir el verdadero rostro de los partidos políticos hacia los simpatizantes zapatistas. Y al mismo tiempo de ello, que ellos toman una posición clara en frente a los partidos políticos, dejan entrever a todos los simpatizantes zapatistas que tienen que tomar una posición clara en cuanto a esta lucha que proponen los zapatistas y lo que es la lucha electoral, que son dos caminos totalmente diferentes.
Alors, on est au moment de la trahison, mais on peut pas dire que on peut pas vraiment dire que c'est ça là, parce que trahir là, ça l'amène une connotation de c'est quand tu t'attends pas de la réaction de l'autre partie, alors que c'est pas ça qui se déroulait à ce moment-là. Mais bon, comme il n'y a pas nécessairement d'autres mots, on va nommer ça trahison. Mais à ce moment-là, les apatistes décident de marcher jusqu'à la capitale. Donc, ils arrivent là, c'est un gros mouvement de masse, là, puis ils arrivent au Congrès, puis ils arrivent au Congrès pour dénoncer tous les partis qui sont en place, en fait. Parce que l'idée, c'est de démasquer les partis politiques, mais également certains individus dits de gauche là, qui soutenaient les apatistes à ce moment-là. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est de forcer la prise de position des individus qui soutiennent le mouvement. Ce que font les apatistes à ce moment-là, c'est démontrer que tous les partis maintiennent le système en place, qu'ils soient de gauche, centre ou de droite. Parce que bon, faut dire que les partis de gauche avaient quand même voté contre les accords de San Andrés. Alors, ce que font les apatistes, là, c'est de dénoncer toute cette mascarade-là. Puis c'est un des acquis des apatistes à ce moment-là, d'avoir forcé la prise de position là, de ces gens impartis-là, puis d'avoir aussi pris position eux-mêmes officiellement contre tous les partis politiques.
Bueno, como dijimos anteriormente, los zapatistas tienen una estrategia de doble diálogo. El diálogo con el gobierno, que al mismo tiempo les daba un poco de tiempo y a ellos de reagruparse y al mismo tiempo también de establecer un diálogo con la población o con la sociedad civil, que empezaron a llamarle ellos, sobre este diálogo con la población civil. Es de lo que vamos a hablar.
Donc, comme on a dit, les apatistes là, étaient dans cette stratégie-là du double dialogue, c'est-à-dire un dialogue avec le gouvernement, mais pour gagner du temps, puis un avec eux-mêmes pour pouvoir se regrouper, et avec la société civile, c'est-à-dire de faire un dialogue avec différents acteurs et membres de la société civile. Puis c'est de ces dialogues-là qu'on va parler maintenant.
Y bueno, estamos en el momento de la consulta, pues hablamos de las características de los zapatistas. Esta es otra de las cosas que los hace diferentes a las otras guerrillas. Aparte de que no usan un movimiento armado que no usa las armas y que su principal arma es otras, ¿no? Bueno, los zapatistas usan la consulta, que es una de las tradiciones indígenas, pero lo usan a nivel nacional e internacional. Entonces, durante estos 15 años de movimiento abierto, han llamado a 4 o 5 consultas populares. Y bueno, mucha gente dirá que es reformista o que es una copia del sistema democrático occidental de las elecciones. Pero no. Hacer consultaciones a la población sobre qué opina, aunque en las preguntas no estén opinando la población, fue un gran movimiento de movilización, porque para organizar una consulta a nivel nacional e internacional se requiere muchísima organización y muchos elementos y voluntades conjuntas. Fueron lo que lograron durante estos 5. Fueron ejercicios de organización a nivel nacional e internacional, y también para saber sus límites de los zapatistas, hasta dónde llegaba su apoyo y cuánta gente, porque si hay gente como que si está dispuesta a organizar una consulta en su calle o en su escuela, quiere decir que tiene cierto grado de compromiso con el movimiento zapatista y cierta voluntad, ¿no?, a hacer ciertas cosas. Pues esto. Primero preguntaron sobre si querían si los zapatistas se volvieran un movimiento electoral o que continuara por la vía independiente, si querían que continuara la guerra o que se parara, también sobre los acuerdos de San Andrés. Pues fueron ejercicios muy interesantes que van marcando el camino hacia la otra campaña, que es otro aspecto que vamos a abordar.
Donc, on était en train de parler des particularités des apatistes, puis des caractéristiques qui forment ces particularités là, des apatistes. Puis, il y a tout ce phénomène-là des consultats, que les apatistes ont fait des consultats auprès des populations. Donc, encore là, qui est une autre forme d'armes, si on peut dire, là, que les apatistes, c'est un mouvement armé qui n'a pas d'armes. Les armes sont tout autres. Ils utilisent donc ces consultats-là, qui sont nationales et internationales, des consultations populaires auprès là, de grands pans de population. Certains pourront dire que c'est réformiste ou que c'est comme une copie des modèles électoraux occidentaux, mais c'est pas vrai. Ces consultations-là, emmènent beaucoup d'organisations puis de connaissances là, pour emmener des individus tant du pays que de l'international à avoir à venir se rassembler pour dialoguer. Ça a besoin de beaucoup d'organisation. Ça a été décisif, tous ces mouvements-là, pour savoir en fait comment d'appui avaient les apatistes, jusqu'où allaient leurs appuis, puis c'était quoi les limites. C'est-à-dire que ces mouvements-là s'adressaient à plein de gens, des communautés aux alentours, un peu partout, puis des endroits dans le pays. On va dans une école, on va dans un lieu public pour faire ces consultations-là. Puis les questions sont très larges, puis vont à des points pour qui vont assez loin pour permettre justement de connaître là, c'est quoi les appuis qu'ils ont les apatistes, là, qu'on parle de est-ce que les apatistes devaient maintenir leur modèle ou allaient s'insérer dans un modèle électoral? Est-ce que on continue la guerre ou pas? Puis ça allait également jusqu'à demander aux gens là, que en ce qui concerne les accords de San Andrés, jusqu'où on devait aller. Alors, tout ce chemin-là, ce processus-là d'aller directement voir les gens puis de leur demander leur opinion sur toutes ces questions-là qui sont des enjeux cruciaux, tu sais, c'est le chemin qui a mené à l'autre campagne.
Entonces, pues los zapatistas habían ensayado, habían hecho ensayos diferentes de movilización y pues sí crearon una red de coordinación entre los indígenas que se concretiza en el Congreso Nacional Indígena. Entonces, hasta ese momento, toda la gente que participábamos. La coordinación con los zapatistas solamente era una especie de solidaridad, pero con los zapatistas. Lo que sí. De cierta manera había como ciertas ambigüedades con los zapatistas. Para algunos, como que hasta ese momento no se habían definido los zapatistas como anticapitalistas, aunque en los hechos fueran anticapitalistas. Y entonces los zapatistas deciden de lanzar la sexta declaración de la Selva Lacandona, en la cual invitan a todos los sectores de la sociedad civil en formar un movimiento a nivel sobre todo nacional, pero con apoyo internacional también.
Donc, ce qui manquait tout à l'heure, là, c'était quand on parle de consultation, c'est que le fait même de faire des consultations, c'est ce qui devient une arme, c'est ce qui devient l'outil de mobilisation. Alors, les zapatistes avaient essayé différents modèles de mobilisation, et puis celui-là, celui des consultants, avait mené à la création de tout un réseau de coordination entre les Autochtones qui se concrétise dans le Congrès national autochtone, le CNI. Alors, à ce moment-là, il y a un vaste réseau, mouvement solidaire envers les apatistes, mais qui demeure là, basé sur les individus apatistes. Et puis, il y avait plusieurs ambiguïtés dans le mouvement zapatiste que des personnes emmenaient des critiques, d'autres emmenaient justement, soulevaient le fait de ces ambiguïtés-là. Par exemple, comme le fait qu'il y avait pas que les zapatistes ne se définissaient pas clairement comme anticapitaliste, bien que, bon, dans les faits, ils le soient. Alors, toutes ces questions-là mènent au moment où les apatistes lancent la sixième déclaration de la forêt Lacandone et, suite à cette déclaration-là, lancent l'autre campagne. Alors, l'autre campagne, c'est un vaste mouvement qui va se déployer, qui est basé sur des appuis surtout nationaux, mais qui va également là, avec des appuis à l'international.
Y bueno, de las características nuevas de los zapatistas es que llaman a todos los sectores a luchar conjuntamente por un plan nacional de lucha. También es un, bueno, aunque también tiene una influencia a nivel internacional, en el que es un llamado a coordinarse con diferentes movimientos que lo están haciendo ya en los hechos, sobre todo con colectivos en Europa o en Brasil con los Sin Tierra, en los que ya hay compromisos claros entre las dos organizaciones. Y también dentro de México hay compromisos de algunas organizaciones con los zapatistas de apoyo mutuo. Entonces llama tanto a estudiantes, a amas de casa, a los indígenas, a los niños, a las mujeres, a todos los que dicen ellos los otros, los diferentes, a los que son excluidos de este sistema, de esta pirámide de injusticias que existe en todo el mundo. Las características de la otra campaña es que es anticapitalista. También llama a otra forma de hacer política, porque pues desgraciadamente en las teorías clásicas revolucionarias, llamadas revolucionarias, llámese leninismo, maoísmo, anarquismo, tenemos dinámicas que son opresoras. Hay como una. Sí, que no se mencionan claramente, ¿no? La opresión hacia la mujer, hacia los indígenas, las dirigencias. Sobre todo se hace una crítica muy fuerte a la exclusión que se hace de la mujer en los movimientos de izquierda. Es como lo primero que resalta. También la característica básica de la otra campaña es el consultar, el escuchar, el conocer las experiencias de opresión de estos sectores que estamos hablando y también de las poblaciones, pero también la riqueza de lucha que se ha hecho, que ha habido por todo México, para aprender entre todos, porque no solamente existe la experiencia zapatista, sino existen muchas experiencias. Y puede ser también pequeñas experiencias que se den en un lugar muy lejano, pero que es muy valiosa y que es parte, que va a ser importante en esta nueva sociedad o en este nuevo proceso de liberación que se propone dar. También se está proponiendo una nueva constitución y un nuevo constituyente.
Alors, en étant toutes ces questions-là des caractéristiques nouvelles des apatistes, fait que l'autre campagne, c'est un appel à tous les secteurs pour lutter, tous les secteurs de la population pour faire une lutte commune. On propose un plan national de lutte, mais également, on se tourne vers des mouvements un peu partout dans le monde, notamment beaucoup de collectifs d'Europe. Ou notamment des mouvements sans terre au Brésil, mais également au Mexique, là, c'est-à-dire de collectifs qui ont un engagement et clairement défini de chaque part, là, c'est-à-dire des apatistes, mais des collectifs qui les soutiennent. Et puis également, tout ce qui se déroule au Mexique, là, c'est qu'on va faire un appel at large à tous les gens qui sont concernés par des luttes de la base, c'est-à-dire on fait appel aux étudiants, étudiantes, aux enfants, aux maîtresses de maison, aux femmes. Donc, on va aller vraiment faire un appel à toutes les personnes qui sont directement concernées par les luttes, qui sont directement oppressées par tout ce système-là en place, là. Alors, les apatistes, dans l'autre campagne, se définissent clairement comme anticapitalistes et proposent également une autre forme de faire la politique, qui est sans doute là, l'élément majeur, là, le plus intéressant aussi de la proposition, c'est-à-dire malheureusement, dans beaucoup d'autres modèles, pas de modèles, mais de luttes qui se sont déroulées, de luttes révolutionnaires, que ce soit léninisme, maoïsme, même l'anarchisme. La théorie, finalement, quand elle se met en pratique, là, elle comporte des éléments de domination, mais c'est peu dit. Puis souvent, cette domination-là, ben, va aller toucher les personnes les plus marginalisées, par exemple les femmes, les autochtones. Quand on a fait de la critique, par exemple, ça a été très fort en tout ce qui concerne l'oppression des femmes, parce que c'est ça qui devenait le plus évident ou qui ressortit le plus fort. Alors, la caractéristique du processus que les apatistes proposent dans notre campagne, c'est celui d'écouter, tu sais, d'écouter toutes les récits que les gens ont à dire, ont à partager, puis ça leur mène finalement une richesse des expériences de lutte de chacun puis chacune, puis de toutes ces luttes-là qu'il y a eu au Mexique, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'expériences un peu partout au Mexique qui deviennent importantes là-dedans, tu sais. Puis qui deviennent importantes de se baser dessus pour construire un mouvement qui va prendre en considération les acquis qu'il y a. Alors, on va même jusqu'à proposer dans tout ce processus-là l'adoption d'une nouvelle constitution et d'une assemblée constituante.
Y bueno, esta es la primera etapa que se cumplió. El subcomandante cero, como él se autodenominó, junto con algunos otros comandantes, hicieron el tour de todo México para hacer esta consultación, por todos los lugares donde había grupos de apoyo, donde los invitaban. Entonces hicieron el recorrido de todas las provincias de México, y bueno, los resultados se pueden encontrar en los principales medios alternativos de México. Casi todos los audios sobre estas presentaciones lo pueden encontrar sobre el sitio de Regeneración Radio o también Radio Insurgente.
Alors, avec ça, c'est la première étape qui s'est accomplie, qui s'est terminée, c'est-à-dire le sous-commandant zéro comme le sous-commandant délégué zéro comme lui-même se nomme, accompagné de plusieurs commandants de l'EZLN, ont donc fait le tour du Mexique à l'invitation des groupes d'appui. Dans ce but-là, c'est-à-dire d'aller recueillir les témoignages et puis d'établir un dialogue avec tous ces acteurs-là, des différents secteurs de la société civile. Et puis, le principal de tout ce qui s'est discuté, tout ce qui s'est dit, peut se retrouver sur plusieurs sites web d'intérêt, notamment Radio Regeneración et puis Radio Insurgente.
Entonces, en el momento en que se iba a dar esta segunda etapa y el subcomandante Marco está en la Ciudad de México, pues el gobierno utiliza la vieja técnica de la provocación o la represión. Entonces, manda la represión a la comunidad de campesina de San Salvador Atenco, que se había caracterizado porque 2 años atrás habían impedido la construcción del nuevo aeropuerto sobre su tierra co comunal. Entonces matan dos pájaros de un tiro, logran vengarse de este movimiento que había vencido al gobierno y lanza una feroz represión contra los campesinos de Atenco. Había una asamblea de la otra campaña en la Ciudad de México. El subcomandante Marcos llama a movilizarse para ayudar a Atenco. Hay 2 días de motines sobre el autoroute. Los medios de comunicación llaman a la represión, ya que sacan escenas de autodefensa de la población de San Salvador Atenco y gente de la otra campaña que fue a ayudarlos, donde se golpeaban policías contra manifestantes, diciendo que cómo era posible que el gobierno no reaccionara ante esto. El gobierno manda al ejército y a la policía, y pues las consecuencias, cientos de heridos, cerca de 80 mujeres violadas y 200 encarcelados, de los cuales sus principales dirigentes, bueno, el principal fue condenado a más de 100 años de prisión, según sus últimas dos condenas. Ignacio del Valle sigue en prisión.
Alors, on était dans cette deuxième étape-là. Alors que le commandant Marcos là, était dans la ville de Mexico dans ce but-là, là, d'établir le dialogue avec les groupes et collectifs de la ville de Mexico, le gouvernement a choisi d'utiliser la vieille technique de la provocation-répression et envoie la répression dans une communauté un petit peu à l'extérieur de la ville de Mexico, de San Salvador Atenco, qui est en fait un mouvement qui avait lutté avec succès contre l'expropriation de terres pour l'établissement d'un aéroport international. Alors le gouvernement choisit ce moment-là exactement pour se venger de ce mouvement-là qui l'avait vaincu et envoie répression féroce à Atenco ce jour-là. Qui a évidemment emmené là, le sous-commandant Marcos à appeler, à l'instar des autres groupes en place, à se rendre à Atenco, puis contribuer à la défense, là, puis par l'appui des paysans qui sont en train de lutter. On a assisté à 2 jours d'émeutes, répression sur les autoroutes que les gens ont occupées pour se défendre là, de cette attaque gratuite-là. Les médias ont joué un rôle important à ce moment-là puisqu'ils appellent clairement à la répression en montrant et en choisissant clairement les scènes qu'ils vont montrer pour justifier la répression. Le gouvernement donc appelle à l'armée, force de police pour réprimer de façon brutale le petit mouvement quand même de Atenco qui regroupe une communauté qui est somme toute qui regroupe pas tant de ça tant de personnes que ça. On parle d'une centaine de blessés, plus de 30 femmes abusées sexuellement, torturées sexuellement et violées, et des dizaines et dizaines d'incarcérés, dont le cas le plus important va être celui qu'on a nommé dirigeant Ignacio del Valle avec plus de 100 ans de peine de prison.
Y bueno, llegamos a este momento que podemos decir donde se termina esta etapa, junto con también hay un encuentro al que llaman los indígenas, el encuentro indígena de las Américas en Wicam. Había una delegación de los zapatistas que iba rumbo a Sonora, que es en el norte de México. Empieza a haber acoso militar contra ellos, con riesgo de arresto del subcomandante Marcos y los comandantes. Bajo estas condiciones de alto riesgo, decide la dirigencia regresarse a Chiapas. Solamente el subcomandante Marcos toma este riesgo. Meses después empieza a haber movilización en el estado de Chiapas. Quiere decir que el ejército prepara un cerco militar, cambia de estrategias. Está acumulando fuerzas de reacción rápida, que también fueron estos grupos de militares que fueron preparados por los Estados Unidos para tratar de dar un golpe rápido, o no sé qué están los zapatistas esperando. Los zapatistas en ese momento declaran lo que es la alerta roja. A partir de la alerta roja se interrumpen los trabajos de la otra campaña o se cambia de dinámica de la otra campaña. Entonces, los zapatistas están en un proceso de consultación interior. Y pues lo que dice Marcos es que el olor de la guerra se siente en el ambiente y que se están preparando para la guerra. Una guerra que no son ellos que la van a comenzar, sino que es el gobierno que está comenzando esta guerra y lo que van a hacer ellos solamente defenderse. Y es en ese momento en el que nos encontramos en la otra campaña, antes de este llamado internacional al Festival de la Digna Rabia.
Donc, on arrive à ce moment-là, puis c'est à ce moment-là que se termine cette étape-là, cette étape de consultation avec le processus de l'autre campagne. Puis, ça se termine également avec tout cet appel à la rencontre autochtone des Amériques qui va avoir lieu à Vicam, dans l'État de Sonora. À ce moment-là, alors que la commandance de l'EZLN est en train de se rendre à Vicam, il y a des situations d'agression de la part de la part des des forces de l'État, des États du Mexique, puis la part du fédéral qui emmène là, à des petits moments de confrontation. Et puis, à ce moment-là, la commandance décide de retourner hélico au Chiapas. Il y a seulement le commandant Marcos qui va se rendre jusqu'à Vicam, le niveau de tension vient de se relever d'un cran. Et puis, au Chiapas, ça se ressent, c'est-à-dire qu'il y a tout un mouvement au Chiapas où il y a des groupes formés par les États-Unis, là, des groupes armés qui sont clairement en train de prendre place à différents endroits, et puis qu'on sent que ça se prépare pour des petits coups rapides, des coups rapides là, de répression. Il va y avoir cette alerte rouge-là qui va interrompre le processus de l'autre campagne. Et puis, les apatistes entrent dans une autre phase de consultation à l'interne pour essayer de voir comment se préparer à tout ce qui est en train de se dérouler puis ce qui est en train de se pressentir. Marcos dira à ce moment-là que on sent l'odeur de la guerre qui est présente. Puis cette guerre-là, en fait, c'est le gouvernement qui est en train de la préparer. Puis c'est le gouvernement qui va la faire. Puis eux vont répondre à ça. Et puis se préparent en fait pour répondre à ça. C'est dans toutes ces dernières étapes-là que sont situés les apatistes. C'est ça qui est en train de se passer juste avant qu'il y ait là, finalement l'appel pour le festival de la digne rage.
Pues en el análisis de los zapatistas, lo que se viene para México es lo que pasó en Oaxaca. Una rebelión de la población espontánea. Entonces, lo que dicen los zapatistas es que va a pasar eso por todo México. Entonces, el esfuerzo de la otra campaña es tratar de organizar toda esa rabia. Y que pues este movimiento de rebelión al que está llamando, aunque sea un movimiento de rebelión, que sea pacífico y que sea sin derramamiento de sangre, por eso es el llamado a la organización.
Alors, dans l'analyse des apatistes, ce qui est pressenti pour arriver au Mexique, c'est ce qui s'est passé en fait à Oaxaca, c'est-à-dire une rébellion populaire, une rébellion de masse. Et puis, les apatistes pressentent que c'est ça qui va se passer à ce moment-là dans tout le Mexique. Ils souhaitent en fait faire converger cette rage-là. Ils souhaitent, tu sais, pouvoir contribuer à canaliser cette rage-là. Et puis c'est pour ça qu'ils appellent à la rébellion, mais une rébellion pacifique, sans effusion de sang. Et puis c'est pour ça qu'à ce moment-ci, ils font appel à l'organisation.